L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, une belle victoire en Belgique pour les personnels de cabine de la compagnie Ryanair avec des augmentations de salaire jusqu'à 25%. En Suisse, on tentera de comprendre pourquoi la qualité du sperme est en baisse, au point d'envisager de futures difficultés pour concevoir des enfants. En France, le cas Vincent Lambert avec plusieurs rebondissements cette semaine concernant le maintien en vie de cet homme en état végétatif depuis près de 10 ans. Nous irons aussi au nord du Bénin qui s'inquiète pour sa saison touristique depuis les récentes prises d'otages. Enfin, nous verrons au Canada que si le coût du logement reste souvent élevé, il y a quelques raisons d'espérer, notamment à Vancouver ou Toronto. Voilà pour le programme francophone. Bienvenue à tous. Enfin, un Premier ministre en République démocratique du Congo, Charlotte Hydrac.
Oui, on l'attendait depuis près de 4 mois, même si certains ont souligné que la Belgique avait déjà passé 541 jours sans gouvernement en 2010-2011. C'est donc fait en RDC. Sylvestre Ilunga a été désigné par l'ancien président Joseph Kabila, majoritaire au Parlement, et nommé par l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cet économiste de 70 ans, mi-bureaucrate, mi-politique, passe pour un homme conciliant, un atout essentiel pour celui qui devra jouer les traits d'union entre l'actuel et l'ancien président.
Benoît Audet, au Canada, votre personnalité de la semaine est le réalisateur Xavier Dolan.
Oui, il a présenté son 8e long-métrage « Mathias et Maxime » au Festival de Cannes. Le film, qui est en compétition pour la Palme d'Or, a été chaudement applaudi au terme de sa présentation. Xavier Dolan est un habitué du festival. Il avait fait sensation quand il avait présenté « J'ai tué ma mère » il y a 10 ans. En conférence de presse, il a dit qu'il désirait jouer un peu plus devant la caméra et réaliser à un rythme moins effréné.
Et puisque vous évoquez le Festival de Cannes, l'homme qui a marqué la croisette cette semaine, c'est probablement Alain Delon. Venu recevoir une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière, il est monté sur scène comme pour faire des adieux. Plus qu'une fin de carrière, c'est aussi une fin de vie, a dit l'acteur de 83 ans, très ému. Il a fait référence aussi à cet hommage posthume, mais de son vivant, a-t-il dit. En Belgique, Nathalie De Vic, le prince du ballon rond est de retour.
Vince the Prince, Vincent Kompany, attendu en véritable sauveur d'un de nos plus grands clubs de football, celui-là même qu'il a formé, Anderlecht, car le Sporting vient de vivre une saison catastrophique et compte bien aujourd'hui sur notre star internationale pour retrouver un peu de prestige. Notre Diable Rouge a donc choisi de quitter Manchester City pour relever le défi en endossant un double rôle inédit dans notre championnat, puisque Kompany sera à la fois joueur et entraîneur. Un pied donc sur la pelouse, un autre sur le banc. C'est ce qui s'appelle le grand écart. On attend de voir. En tout cas, souplesse exigée.
En Suisse, le président de la Confédération s'est taillé à un joli succès sur les réseaux sociaux, mais à ses dépens, Pierre-Henri Chauffard.
Oui, comme souvent, par sarcasme, en effet. Il y avait eu Jan Schneiderhamann et son rire bon pour la santé, communiqué avec une tristesse incommensurable. Il y a désormais Uli Maurer en live breaking news sur CNN. Une prestation douloureuse où le président helvétique, qui venait de rencontrer Donald Trump, ne comprend visiblement pas les questions de la journaliste. Et quand on les lui traduit, il répond dans un anglais approximatif qu'il ne peut rien dire sur le rôle d'intermédiaire de la Suisse avec l'Iran. Pas sûr que l'excuse invoquée par ses services, un problème d'oreillette, sauve ce fiasco médiatique.
En Belgique, Nathalie De Vic, le personnel de Ryanair a donc remporté une nouvelle victoire importante.
Et cette fois, il s'agit du personnel de cabine. Les pilotes, eux, avaient déjà obtenu de la compagnie irlandaise qu'elle respecte chez nous le droit belge du travail. Un accord avait été signé il y a quelques mois avec la direction, mais seulement pour les pilotes, pas les stewards ou les hôtesses de l'air. Lacune en passe d'être comblée puisqu'une hausse de 25% de leur salaire vient d'être négociée. 25%, cela peut paraître énorme, pourtant cela ne sera encore qu'une juste mise à niveau avec les salaires minimums du secteur de l'aviation. Et pour les syndicats, dont le délégué Didier Leb, c'est un pas très important.
C'est historique parce que c'est la première fois qu'on parle de choses concrètes concernant le personnel de cabine. Donc ici, on parle de leur portefeuille quand même. Sans les grèves, on n'aurait pas avancé d'un iota. Si on doit quand même dire qu'on a reconnu le fait syndical, ils ont accepté de négocier avec nous. Voilà, donc ça, c'est une grande victoire et ça, c'est grâce aux grèves. Ça, c'est clair et net.
Des grèves à répétition qui avaient paralysé la compagnie l'an dernier dans plusieurs pays d'Europe, avec des conséquences économiques désastreuses. En 2 ans, l'action Ryanair a perdu la moitié de sa valeur. Ce changement de cap, dès lors plus conciliant, était devenu inéluctable. Les Irlandais ont bien compris qu'ils ne pouvaient plus se permettre de revivre un mouvement social d'une telle ampleur, d'autant que la concurrence se fait de plus en plus rude aujourd'hui au sein des compagnies à bas coût.
En Suisse, une large étude l'a confirmé cette semaine, les jeunes Suisses ont des soucis à se faire à propos de leur fertilité, Pierre-Henri Chauffard.
Et ce sont les hommes qui sont concernés au premier chef. La qualité du sperme est en effet en baisse, un constat général dans les pays industrialisés. Mais les jeunes Helvètes sont parmi les plus touchés par cette dégradation avec les Danois, les Norvégiens et les Allemands. Reste à en déterminer les causes. Les chercheurs ont dans leur viseur la consommation de tabac durant la grossesse, mais aussi des facteurs environnementaux comme les perturbateurs endocriniens. En attendant, l'étude basée sur 2500 conscrits a démontré que près d'un homme sur 5 entre dans la catégorie des subfertiles.
Subfertiles, c'est-à-dire, Pierron ?
Eh bien, ce sont les hommes dont le nombre de spermatozoïdes est si faible qu'ils rencontreront des difficultés à concevoir un enfant. Serge Neff est professeur de médecine génétique à l'Université de Genève.
La situation est préoccupante. La fertilité, c'est une fertilité de couple. Il y a les deux partenaires, la femme et l'homme. Mm-hmm. On observe également maintenant une augmentation de l'âge du premier enfant chez la femme. Et on sait que la fertilité chez la femme décline après 35 ans. Si on combine ça également avec une qualité spermatique du partenaire mâle qui est suboptimale, ça va impliquer probablement la procréation médicalement assister.
Cette tendance à la hausse des cas d'infertilité masculine est confirmée par les centres de procréation. Problème, seules 3 tentatives d'insémination dans l'utérus sont prises en charge par l'assurance maladie et la fécondation in vitro ne l'est pas du tout, à la différence de la plupart des pays européens. Concevoir un enfant pourrait alors devenir un luxe en Suisse. Voilà qui promet de beaux débats politiques.
En France, c'était une semaine à rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Cet homme de 43 ans, maintenu dans un état végétatif depuis près de 10 ans après un accident de la circulation. Sa famille est déchirée entre le maintien et l'arrêt des soins. Lundi dernier, après une énième décision de justice, Vincent Lambert avait commencé à ne plus être alimenté. Première étape médicale avant l'arrêt définitif des soins. Et bien, le même jour, la Cour d'appel de Paris a ordonné l'État à reprendre le traitement pour finalement laisser Vincent Lambert en vie. Une victoire donc pour les parents qui bénéficient du soutien de nombreux catholiques intégristes contre l'avortement, contre l'euthanasie. Leur avocat, maître Jérôme Triomphe, ne cachait pas son enthousiasme.
Ma reconnaissance va à la Cour d'appel qui a sauvé l'honneur de la France, qui a sauvé la vie de Vincent, contre laquelle tout un appareil d'État s'était déchaîné de manière misérable. L'affaire de Vincent Lambert ne fait que commencer parce que derrière Vincent, qui maintenant est sauvé, eh bien derrière c'est toutes ces familles qui étaient dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver à leurs proches.
Bravo !
Satisfaction donc de ceux qui prônent le maintien des soins, mais déception en revanche chez les partisans de la fin de vie. Cette dernière décision de justice est une aberration, c'est ce que pense maître Gérard Chemla, l'avocat du neveu de Vincent Lambert.
On est dans quelque chose de totalement invraisemblable. On va de nouveau revenir à des soins inutiles pour prolonger un calvaire qui dure depuis plus de 10 ans. Cette décision ne va faire que semer une confusion dont nous étions en train de sortir.
Voilà, et cette affaire judiciaire n'est pas encore refermée car un pourvoi en cassation est encore possible pour finalement autoriser la fin de vie de Vincent Lambert. Au Bénin, après l'enlèvement puis la libération de 2 touristes français il y a quelques jours dans le nord du pays, eh bien c'est désormais le secteur touristique qui est inquiet, Charlotte Hydrac.
Oui, il n'y a pas grand monde ces dernières semaines dans le parc national de la Penjari qui abrite phacochères, éléphants ou encore lions africains. C'est dans cette réserve naturelle à la frontière du Burkina Faso que les 2 Français ont été enlevés et leur guide béninois retrouvé assassiné. Pour les membres de l'Union des guides de la Penjari comme Mathieu Yokosipé, c'est un gros coup dur.
On ne sait pas actuellement comment réfléchir. On réfléchit la mort de notre frère, on réfléchit la mort de notre métier et on réfléchit à plusieurs morts en même temps. Une fois notre métier est mort, nous-mêmes, on est morts aussi.
Le Bénin avait jusqu'ici été épargné par le terrorisme. Aujourd'hui, la Pendjari est en bonne partie en zone orange, donc déconseillée par les autorités françaises, et en zone rouge le long de la frontière. Mais pour Marqueta, Anthony Nova, manager de l'ONG gérante du parc, il faut continuer.
Toute notre équipe qui est avec nous depuis le début, ils savent comment notre équipe des rangers qui assure la sécurité pour la faune et pour tout le monde travaille. Je crois qu'ils sont assez assurés qu'on fait tout ce qu'on peut faire de tenir tout le monde en sécurité.
La sécurité sera renforcée, c'est ce que soulignent aussi les autorités et l'armée. Tout le dispositif va être revu, sachant que pour le gouvernement béninois, le tourisme est un pilier de son programme de développement.
Au Canada, question cette semaine sur le coût élevé des logements, souvent inabordables. Les villes de Vancouver et de Toronto se retrouvent dans le haut du classement. Cela dit, Benoît Audet, on sent tout de même un certain renversement de tendance depuis quelque temps.
Oui, particulièrement à Vancouver, qui demeure tout de même la ville où le coût des logements est le plus élevé au Canada. En 2018, la région de Vancouver a quand même vu la valeur de son parc immobilier diminuer de 13 %. Ça représente 89 milliards de dollars, soit 40 milliards d'euros.
Et qu'est-ce qui explique cette baisse?
Un des facteurs, c'est que le gouvernement provincial a pris des mesures pour ralentir la hausse folle des prix à Vancouver. On a imposé une taxe aux acheteurs étrangers, surtout d'origine asiatique, pour freiner la spéculation et la pression sur les prix. Malgré cette baisse généralisée, ça demeure très difficile pour le commun des mortels de trouver un logement abordable à Vancouver.
Et dans l'est du pays aussi, hein, à Toronto, on sent comme un ralentissement?
Oui, là aussi, on a imposé une surtaxe aux acheteurs étrangers et on a remarqué une baisse des transactions conclues par des gens qui viennent de l'extérieur du Canada. Par contre, le prix des propriétés s'est maintenu à Toronto et il a même légèrement augmenté. Pour le moment, au Canada, c'est le marché de Montréal qui se démarque. On enregistre de fortes hausses dans la métropole québécoise, même si les prix demeurent beaucoup plus bas qu'à Toronto et Vancouver.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.